sur le podcast de la 14e édition du prix du livre environnement décerné par la Fondation Veolia. Cette initiative vise à soutenir, encourager et promouvoir les écrivains et les maisons d'édition qui œuvrent à sensibiliser les lecteurs aux enjeux majeurs de la planète. Dans cet épisode, nous avons le plaisir d'échanger avec Virginie Maris, chercheuse en philosophie de l'environnement et auteure de La part sauvage du monde, publiée aux éditions du Seuil. Bonjour Virginie Maris.
Bonjour.
Quel message avez-vous souhaité transmettre à travers ce livre ?
Eh bien, à travers ce livre, j'essaye de d'éveiller un peu le souci, l'attention au fait que, en dépit de toutes les alertes qui pèsent sur, on va dire, l'omniprésence des activités humaines, l'omniprésence des affaires humaines sur la planète, il reste et il doit rester quelque chose de sauvage, quelque chose de totalement récalcitrant à notre emprise, à notre gestion. Et cette chose-là, je l'appelle la part sauvage du monde.
Alors, quelles sont les idées reçues sur la nature que vous questionnez peut-être dans cet ouvrage ?
Alors, c'est une idée peut-être qui n'est pas une vieille idée reçue, qui serait plutôt une nouvelle idée de la nature, qui tendrait à dire que la nature est morte, que la nature n'existe pas, justement parce que les êtres humains auraient une telle influence sur les milieux naturels, sur les espèces, sur le monde en général, qu'il n'y aurait plus rien qui échappe finalement à l'humanité et à ses artifices. Alors cette idée-là, qui est très intéressante, très pertinente, que je ne rejette pas en bloc, j'essaye tout de même de la critiquer, de l'analyser de façon un petit peu réflexive pour montrer que la nature, une grande nature totalement vierge, intouchée, indépendante de toute influence humaine, peut-être n'existe pas ou n'a jamais existé. Néanmoins, il y a massivement dans le monde des forces, des êtres, des dynamiques qui nous échappent.
Alors pourquoi l'être humain a finalement passé son temps à vouloir maîtriser cette nature sauvage ?
Alors je ne sais pas. Je ne sais pas si l'être humain a passé son temps à vouloir la maîtriser. L'humanité est vieille de 300 000 ans, en tout cas Homo sapiens, sous la forme que nous avons aujourd'hui. Plus encore si on pense au genre Homo. Alors on a probablement une part sauvage en nous et cette idée de la maîtrise de la nature est quelque chose qui finalement dans l'histoire de la Terre et dans l'histoire de l'humanité même est très récent. C'est un battement de cils qu'on pourrait faire remonter à, on va dire, la révolution scientifique, la modernité, donc une idée qui n'aurait finalement pas plus que trois siècles et demi.
Alors, est-ce qu'il faut réconcilier aujourd'hui l'être humain avec cette nature sauvage ?
Bah, peut-être que s'ils étaient trop réconciliés, elle ne serait plus sauvage. C'est peut-être cette irréconciliation qui caractérise justement le sauvage et qui le différencie de la nature domestique, commune, de la nature qui nous entoure et avec laquelle nous avons des relations de compagnonnage ou parfois de domination. Alors, faut-il les réconcilier ? Je pense qu'on peut aussi accepter de ne pas être partout, accepter le retrait, accepter que cette planète ne nous est pas donnée et que on peut la partager sans nécessairement vouloir faire bon ménage partout et avec tout le monde.
Quel est le message le plus important selon vous à diffuser alors que justement la biodiversité est en crise, que la planète souffre et que de grands enjeux nous attendent ?
Il y en a de trop nombreux pour que je n'en choisisse qu'un. Alors je me contenterai de transmettre le message peut-être qui concerne mes travaux, mon souci très particulier qui est celui de la diversité du monde vivant et de notre rapport à cette diversité. Et je dirais que le temps est peut-être venu de cultiver une forme d'humilité et une forme de sobriété, de simplicité dans nos besoins, d'une part, dans nos besoins de consommation, d'appropriation du monde vivant, mais aussi dans de façon plus, on va dire, plus profonde dans notre conception de la place des humains dans la planète.
Justement, comment faire évoluer cette conception, c'est-à-dire notre rapport au monde, notre rapport à la nature? Quelle est la question finalement que chacun d'entre nous peut se poser?
Je pense qu'aujourd'hui, on a finalement naturalisé, on s'est habitué, on s'est accoutumé à des modes de vie extrêmement consommateurs d'énergie, d'espace, de ressources. Et on ne se rend pas compte non seulement de l'impact, alors certains peuvent parler d'empreinte écologique, d'appropriation nette, de productivité de la terre, etc. On n'a plus conscience de la dépendance de nos modes de vie sur la destruction pure et simple d'espèces, de milieux naturels ou la consommation de ressources, d'énergie, etc. Donc au niveau individuel, j'ai l'impression que déjà essayer de retisser le lien entre nos modes de vie, ce qu'on consomme, comment on se déplace, comment on s'habille, et toute la chaîne de consommation, destruction qui les implique. Je pense que c'est une forme de question ou de reconfiguration un peu de nos choix qui est important, parce que la plupart d'entre nous, j'en suis convaincue, ne feraient pas les mêmes choix et n'accepteraient pas les mêmes niveaux de dépendance à certaines technologies, à certaines énergies, si ceci était clairement associé à la destruction qui les implique. Donc, pour le dire plus simplement, j'ai l'impression qu'élargir notre conception de nos choix et de nos décisions à toute la chaîne de conséquences que cela a sur les milieux naturels, c'est déjà un premier pas pour réviser un petit peu ce à quoi nous tenons, et notamment pour se rendre moins aveugle quant à l'impact de nos modes de vie sur le monde naturel.
Merci Virginie Maris pour cet entretien. Je rappelle le titre de votre livre, La part sauvage du monde, Penser la nature dans l'anthropocène, publié aux éditions du Seuil.
Merci.
Veolia, alors c'est un acteur de l'aide au développement et l'humanitaire d'urgence, l'emploi et l'insertion, et la protection de l'environnement et la biodiversité.